Chapitre 38 que nous allons lire, réponse de l'Éternel à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de foi, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soit secoué pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle, si tu sais toute chose. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres ? Où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes actes de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe ? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace ? Et qui enfante le frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée ? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau ? Lances-tu les éclairs ? Partent-ils, te disent-ils, nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le cœur ? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble ? Voyons d'abord ce premier chapitre, mais je vous dirai quand même immédiatement quelque chose en manière d'introduction sur les chapitres 38 et 39. Ce que Job a si ardemment souhaité se produit maintenant. Au chapitre 13 et verset 3, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Il avait voulu cela au chapitre 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Eh bien, Job va le voir et l'entendre. Et au chapitre 31, verset 35, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. » Eh bien, le Tout-Puissant a entendu, et il répond à Job. Eliu, dans son long discours, a préparé Job, mais n'a pas dit le dernier mot. Le mystère de l'épreuve de Job n'est pas éclairci. Personne n'a encore dévoilé le but de cette épreuve. Dieu seul pourrait le faire. Il pourrait déclarer à Job pourquoi il a soumis à l'épreuve. Toutefois, Dieu ne va pas faire cela. Il va certes reconnaître que, dans un sens, Job est innocent, tout en lui faisant également reconnaître à lui-même son manque d'intelligence, sa prétention en parole, et il va reprocher à ses trois amis leur dureté. Mais cette intervention de Dieu se déroule tout autrement que Job ne l'avait imaginé. Surpris et accablé par les questions que le Seigneur du ciel et de la terre lui adresse, il comprend quelle a été sa présomption et son imprudence, et il s'humilie pleinement, ce à quoi Eliu l'avait préparé. Mais l'Éternel ne va pas dévoiler à Job ce qui s'est passé dans les lieux célestes et que nous, lecteurs, nous savons par le prologue de ce livre. Et Dieu ne va pas lui révéler, lui dire, eh bien voilà, n'est-ce pas, Satan m'a dit telle chose, et c'est... ensuite de quoi je lui ai permis de te mettre à l'épreuve. Dieu ne va pas le lui dévoiler. Il ne dit pas, il ne lui dira pas pourquoi il a laissé l'épreuve le terrasser, ce que d'une manière générale, d'ailleurs, Dieu ne révèle pas. Dieu ne révèle pas pourquoi il nous soumet à l'épreuve. Il nous montre une voie. Il nous montre ce qu'il veut que nous soyons, il nous brosse un portrait du vrai disciple de Christ, il nous montre ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la sagesse, ce qu'est notre destination, mais il ne nous dit pas toujours ce qu'il fait pour que nous nous engagions et marchions dans la voie du salut. Il faut en effet que la pleine confiance en Dieu s'éveille. Et pour que la confiance en Dieu s'éveille, il ne faut pas que Dieu nous donne connaissance de ses secrets à lui. Il faut que nous ayons confiance. Si Dieu nous disait, voilà, j'ai fait telle et telle chose pour tel et tel résultat, eh bien, cela empêcherait la foi, la confiance. Dieu ne révèle pas. Donc, Dieu ne va pas révéler à Job ce que nous avons appris dans le livre, dans le prologue du livre. Dieu, d'autre part, n'a pas à justifier ses voies. S'il les a choisies, s'il les a employées, c'est qu'elles sont propres à atteindre le grand but qu'il s'est fixé, que s'est fixé son amour, à savoir sauver les hommes pour l'éternité et faire d'eux de véritables amis capables de l'aimer. Dieu atteint toujours le but qu'il s'est fixé et par conséquent, il n'a pas besoin de justifier ses voies. Et je en reviens particulièrement alors à ce chapitre 38, où Dieu va se cantonner d'abord dans l'ordre des phénomènes naturels de la création inanimée. Et la forme employée sera celle d'une interpellation de Job, d'une interrogation de Job. As-tu assisté à la mise en place de cette création que tu vois et qui te contient? Voilà l'idée générale. Eh bien, voyons un peu le détail maintenant. Au verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu, ou qui a étendu sur elle le cordeau, sur quoi ses bases ont-elles été appuyées, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Comment la terre a-t-elle été fondée? Comment cette planète, ce lieu du séjour des hommes, cette biosphère, c'est-à-dire ce lieu qui permet la vie, qui est propre à la vie des hommes et des animaux, eh bien, comment a-t-il été créé, mis en place? Peux-tu le dire, toi, Job? Et qui peut le dire? Vous savez que nos savants ont dit bien des choses, prétendu bien des choses, mais ils se sont en tout lourdement trompés, et il arrive fréquemment que une nouvelle vague de connaissances engloutisse la vague précédente. Des théories nouvelles apparaissent, là on le voit, on l'a vu de tout temps, et même de notre temps, maintenant encore, il y a toujours des connaissances nouvelles qui font disparaître les précédentes. Par conséquent, l'homme cherche, mais l'homme ne peut pas dire comment la terre a été fondée. Elle l'a été par des actes créateurs. Ici, les étoiles du matin, je voudrais vous dire pourquoi il y a ici cela, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce rapprochement entre les étoiles et les fils de Dieu, qui sont les anges, la multitude des anges, les milliards d'anges, eh bien, ce rapprochement dans les textes bibliques a fait dire et a fait penser, je suis moi de cela, que les étoiles étaient des demeures pour les anges. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors là, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, de ces étoiles s'échappaient des chants d'allégresse que Dieu pouvait entendre, lui, n'entend-il pas tout, n'est-ce pas? Il pouvait entendre ces chants d'allégresse et que tous les fils poussaient des cris de joie, donc les fils de Dieu qui étaient dans ces diverses et multiples habitations. Il y a certainement des planètes, la Terre ne peut pas être le seul séjour de la vie. Ceux qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur le point de savoir si ce monde est habité, eh bien la réponse est certainement affirmative, c'est pas un monde vide. Seulement, les habitants de ce monde sont les anges, et ces anges, les hommes ne les découvriront jamais. Ils pourront les voir se manifester plus tard, mais ils ne les trouveront pas, ils n'entreront pas en correspondance avec eux, sinon avec les anges déchus, les démons sans doute. D'ailleurs, l'entrée en correspondance avec les démons est déjà largement entreprise.
La suite des descriptions des chapitres 38 à 41 n'est pas reproduite sur cet enregistrement et nous passons directement aux réflexions sur ces chapitres et au chapitre final 42.
Ainsi, Job est replacé dans l'attitude qui seule convient à l'homme vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, en somme, lui propose peut-être de reconsidérer le monde s'il trouve qu'il peut le faire, ou de le gouverner à sa place. Job serait bien incapable de dompter l'hippopotame et le crocodile, alors comment pourrait-il faire régner la justice dans le monde où s'agitent bien d'autres puissances que celles de ces deux animaux? Et ce que nous pouvons encore dire, c'est que tout plaidoyer contre la justice de Dieu est faux. Tout plaidoyer qui, naturellement, contre la justice de Dieu, tendrait à donner un certain avantage à l'homme. Tout plaidoyer de ce genre est absolument faux. Il ne suffit pas de connaître le bien, il faut être à même de le faire triompher. N'est-ce pas? Il y a eu, le Seigneur a parlé des méchants et des hautains. Eh bien, abaisser les hautains, humilier les hautains, il ne s'agit pas de connaître le bien, comme Job a prétendu le connaître, il faut aussi être capable de faire triompher le bien sur le mal et d'abaisser les hautains, les orgueilleux. Enfin, dernière réflexion, nous pourrons dire ceci, c'est que de l'ensemble de cette réponse de l'Éternel à Job, nous pouvons retirer la pensée que Dieu est peut-être beaucoup plus réaliste, et certainement beaucoup plus réaliste que nous ne le sommes, nous, généralement. Dans notre manie de vouloir spiritualiser bien des choses à tort, et vous savez que on a spiritualisé dans l'Église, je dis dans tous les temps de l'Église, on a spiritualisé d'une façon outrancière et stupide, hein, et on a abandonné souvent la pratique, les vues sur la création de Dieu et le rapport qu'il doit y avoir entre le sens spirituel de l'homme, entre la piété de l'homme et puis l'existence courante. La piété doit se traduire dans l'existence courante. Nous pouvons dire que Dieu, lui, nous ramène ici à considérer les choses de la création. Il nous ramène à considérer ces choses. Elles comportent pour nous des leçons d'ordre pratique. Dieu, en somme, ne nous parle pas, lui, une théologie élevée. Je crois que nous connaissons mal notre Dieu. Nous imaginons qu'il faut que nous efforcions de concevoir des pensées extrêmement élevées, raffinées, n'est-ce pas, qui se dégagent le plus possible de la matière et de tout pour parler à Dieu. Eh bien, ce n'est pas ça. Nous apprenons ici une leçon, et le Seigneur Jésus lui-même n'a pas craint de nous parler des choses de la nature, et beaucoup de ses paraboles, d'ailleurs, empruntent leurs images à la nature. Jésus a été un observateur de la nature. Alors, il y a là à repenser notre attitude vis-à-vis de Dieu. Elle doit être, bien sûr, infiniment spirituelle, et elle sera spirituelle comment? En ne contestant jamais avec Dieu, en apportant à Dieu notre pleine confiance, en saisissant sa parole sans vouloir s'en éloigner, ni à droite ni à gauche, en saisissant sa parole comme un guide absolument sûr, comme une règle de sainteté, si vous voulez, n'est-ce pas? Voilà ce que nous avons à faire, mais Nous parlons à Dieu, nous pouvons parler à Dieu un langage simple, un langage qui comprendra les éléments de notre existence et même des faits d'observation. En tout cas, nous parlons à Dieu un langage simple et non pas un langage édulcoré ou sophistiqué, hein, alambiqué ou spiritualisé à l'excès que Dieu ne peut pas écouter parce que c'est artificiel et ça ne signifie rien. Chapitre 42, que nous ferons suivre de quelques réflexions d'ensemble sur le livre de Job. D'abord les versets 1 à 6. Maintenant, Job avoue avoir parlé sans comprendre, donc avec prétention, et il avoue aussi être coupable et se condamner. Il est coupable et il se condamne. Il avait déjà avoué son incapacité et son ignorance. Chapitre 39, verset 37. « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je, je mets la main sur ma bouche. » Il avait avoué déjà à l'Éternel, par conséquent, son ignorance. Et maintenant, il avoue sa prétention et sa culpabilité. C'est dans notre verset 3, ici, c'est Job qui cite ce qu'il a déjà entendu de l'Éternel. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Notre Bible, nos versions, ont mis cette phrase, cette interrogation, entre tirets, ce qui supposerait que c'est l'Éternel qui reprend la parole, mais ça ne va pas du tout. Job répondit à l'Éternel et dit deux points. Il dit tout le reste, il dit les versets 2 à 6 inclus. Et c'est lui qui rappelle ça et qui dit « Oui, j'ai parlé ». C'était un reproche qui l'avait particulièrement touché, atteint, et il y répond, il reconnaît qu'en effet, il a obscurci la sagesse de Dieu. On peut très bien traduire ici, au lieu de « dessein », la sagesse de Dieu, ce qui est préférable. Préférable, il a obscurci les desseins, enfin ça peut aller, mais c'est surtout la sagesse de Dieu. Faute d'une compréhension, et même, il reconnaît qu'il ne pouvait pas concevoir ce dont il a parlé présomptueusement. Job comprend une chose essentielle au verset 4, c'est qu'il ne pourra plus désormais s'appuyer sur sa propre intelligence, sur sa propre sagesse, comme il l'a fait jusqu'ici, mais désormais, il écoutera son Dieu l'instruire, et c'est lui qu'il consultera. « Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » Donc, il reconnaît que tout ce qu'il a dit procédait de l'intelligence de l'homme et était en dehors de toute véritable conception. Voilà, n'est-ce pas, une transformation importante. Il maintenant a acquis cette certitude, c'est que de l'homme ne sort pas la vérité, il faut l'entendre de Dieu et la recevoir de Dieu. Au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il ne s'agit pas là d'une vue directe par le moyen d'une apparition, car il n'y a aucune apparition qui soit mentionnée dans le livre, mais lorsque l'esprit d'un homme se trouve appréhendé par Dieu, comme ce fut le cas de Job, et que Dieu lui parle, il y a là une telle approche de Dieu que c'est comme une vue intérieure, c'est comme une contemplation de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui ne croit en moi, qui croit et qui voit et qui me contemple, a la vie éternelle. Il faut donc, n'est-ce pas, il y a donc une approche de Dieu, c'est bien ce que nous dit Jacques, n'est-ce pas, approchez-vous de Dieu, c'est là qu'il y a un contact avec Dieu, et c'est comme une vue intérieure, portez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, il y a une vue de l'esprit qu'il faut savoir mettre en action, utiliser, et qui est préférable même à cette vue du corps, ce n'est pas vue des yeux du corps, le regard du corps, ce n'est pas lui qui nous permet de voir l'invisible, mais nous pouvons voir les choses invisibles et notamment nous approcher de Dieu. Nous sommes toujours conviés à nous approcher de Dieu. C'est une approche de Dieu que Job a eue et qui lui fait dire cela maintenant, mon œil t'a vu. C'est l'accès à une connaissance intime de Dieu qui manquait, qui faisait défaut à Job. Et puis, nous lirons du verset 7 à la fin. L'Éternel parle à Éliphaz de Téman et à ses deux amis. Vous n'avez pas... ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ce mot de droiture nous dérange un peu. Il rend difficile la compréhension du texte parce que Job n'a pas parlé, si l'on veut bien, avec droiture, puisqu'il s'est fourvoyé, puisqu'il a contesté la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, d'autres traductions, à la place du mot « droiture », mettent le mot « vérité ». Et je crois que c'est ce mot qu'il est préférable de retenir. « Vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité ». C'est bien mieux. C'est bien mieux. En réalité, Job avait manqué de droiture aussi. Et cela lui a été reproché, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, et il avait parlé en se laissant emporter par un sentiment présomptueux. Selon la vérité, Job a bien proféré des paroles inconsidérées et mis en doute la justice de Dieu. Mais disons d'abord une chose, c'est que sa maladie le tourmentait. Et comme l'a dit Élihu cette fois, au chapitre 36 et au verset 21, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » La souffrance te dispose au mal, c'est-à-dire en somme, à dire des choses inconsidérées. La souffrance te dispose à ça. Il y avait donc cela dont l'Éternel, bien sûr, tient compte. L'Éternel tient compte de cet état. Dans un état de souffrance, il est certain que les pensées peuvent se troubler et que l'on peut peut-être dévier du droit chemin. Mais il avait été, Job, il avait été dans le vrai, en repoussant les paroles de ses trois amis, en voyant en eux des intercesseurs fâcheux et en contestant leur simplification arbitraire du problème de la justice de Dieu, vue comme justice qui ne sait que châtier. Voilà, c'est ce que disaient les amis, n'est-ce pas? Ils ne voyaient, ils n'avaient que cette vue étroite, et ils se faisaient dur avec cette vue-là. Ils pesaient encore davantage sur Job, déjà assez éprouvé. Leur manque d'amour réel pour Job ne leur laissait aucun moyen de manier la vérité. Ils n'ont pas parlé selon la vérité parce qu'ils n'étaient pas animés par l'amour. Chers amis, certes, nous devrions le savoir. Je ne sais pas comment faire pour le faire entrer dans vos cœurs, dans vos âmes, et que vous ne le perdiez plus. Si l'on ne parle pas avec amour, on ne parle pas selon la vérité. Et bien des passages de la Bible nous le disent, il faut que nous comprenions cela. La Bible n'est pas un code que l'on consulte, quel est le verset, le chapitre, le livre qui me dit ceci ou cela. Il faut apprendre de la Bible des choses qui sont fondamentales. On ne peut pas parler selon la vérité, même si on cite des versets, si l'on n'a pas l'amour. C'est le cas du diable, qui a parlé avec des versets bibliques et qui ne parlait pas selon la vérité. Alors, chers amis, retenez cela et retenez surtout vos paroles. Retenez vos paroles quand vous serez tenté de parler non sous l'impulsion de l'amour, non dirigé par l'amour, non le cœur rempli d'amour, mais de parler comme cela à votre gré, selon l'homme, vous ne proférerez pas des paroles de vérité. Alors attention, et vous ferez du mal, vous exciterez, vous ferez comme les amis de Job lui ont fait. Et Job est appelé mon serviteur. Mon serviteur, d'abord en raison de ses antécédents, il était intègre et droit, il craignait Dieu, il servait Dieu par une rigueur de conduite, puis par l'expérience douloureuse par laquelle il vient de passer et par le résultat de cette expérience. Il est donc vraiment le serviteur de Dieu. Et attention, il y a dans l'Ancien Testament des hommes qui sont serviteurs de Dieu, appelés ainsi par l'Éternel, et qui ne sont pas du peuple d'Israël. Job est un arabe. Bien sûr, il a une descendance sémitique, mais il est un arabe. Il y aura Cyrus aussi, qui sera un mède, et qui sera appelé lui aussi le serviteur, nous le verrons dans un instant. Nous avons lu que Dieu demande aux trois amis d'offrir un holocauste d'une grande importance, puisqu'il va y avoir 14 victimes à offrir, à immoler. Et cette importance signale celle de l'égarement de ses amis. Tout dogmaticien qu'il se faisait, leur égarement était une véritable folie. Et pourtant, nous l'avons signalé au cours de l'étude, ils prononçaient bien des choses qui, intrinsèquement, étaient de la vérité, étaient détachées de la vérité, de l'expression de la vérité. Il y a des choses même dont on peut se servir dans leur discours. Mais ils ont pourtant cédé à une véritable folie. Ils se faisaient dogmaticiens, comme il arrive, hélas, que certaines personnes se font, elles vous séduisent même avec la Bible et avec leur art de vous présenter les versets. Ah, mes amis, on se laisse emporter, on se laisse séduire par des hommes. Chers amis, mais armez-vous, soyez armés contre de telles choses. Soyons armés. Et comment être armés? Eh bien, en aimant le Seigneur l'Éternel, en étant attaché à lui et à ses paroles, mais à ses paroles lorsque elles nous sont éclairées par le Saint-Esprit, et non comme venant de gens plus ou moins prétentieux, se faisant de docteurs, nous en trouvons dans les épîtres de Paul, de ces faux docteurs, de ces docteurs judaïsants. Nous en avons vu dans les Galates, qui ont détourné, troublé le peuple de Dieu, et l'ont détourné de sa voix. Alors, mes amis, allons-nous nous aussi être emportés à tout vent de doctrine? Ah, il faut absolument un affermissement du peuple de Dieu. Et quand Job aura prié pour ses amis, eh bien, ceux-ci obtiendront, après leur holocauste, le pardon de Dieu. Mais notez une chose, c'est que quand Job prie pour ses amis, comme Dieu l'a demandé, eh bien, il n'est pas encore guéri, et il est toujours ce malheureux malade avec ses ulcères qui remplissent son corps, il a toujours cet aspect repoussant, il est encore celui-là. Et c'est encore ce Job accablé, humilié par cette affreuse maladie qui va élever sa prière vers l'Éternel comme l'Éternel le lui demande. Et aussitôt, après sa prière, il sera immédiatement guéri. Ah, il sera guéri aussitôt après sa prière, parce qu'il aura ajouté à la confiance apportée à Dieu, à la foi par conséquent. Nous avons déjà dit que dans le temps actuel de l'Église, la foi devait apporter à Dieu une totale confiance. Si notre foi n'apporte pas confiance à Dieu, elle n'est pas une foi valable. Il faut par conséquent cette confiance. Il aura donc ajouté à la confiance à Dieu l'humiliation, et c'est encore dans l'humiliation qu'il va prier. Il aura aussi ajouté la repentance, et maintenant, par sa prière, il ajoute l'amour du prochain. Ce qui est d'ailleurs, dans notre texte ici, quand Job eut prié pour son ami. Pour son ami, c'est-à-dire, le mot ici a un sens différent, pour son prochain. Ce qui marque bien, n'est-ce pas, l'intention de l'Éternel, voyez-vous, l'intention de l'Éternel, c'est pour Job essentiellement cela, ce n'est pas tellement pour les amis qui ne sont pas en état de prier, bon, mais c'est essentiellement pour Job, je vous dis, à la confiance qu'il porte maintenant, qu'il apporte à Dieu, à son humiliation, à sa repentance, il ajoute l'amour du prochain. Il prie pour le prochain et il prie pour ceux qui l'ont blessé profondément, qui l'ont meurtri, qui lui ont fait dire même des sottises, des paroles sans intelligence, car c'est surtout eux qui l'ont excité à ça, qui l'ont amené à ça. Eh bien, il prie pour eux, il ajoute l'amour du prochain. Mes amis, voilà une des leçons qui se dégage. Confiance totale à Dieu. Humiliation pleine et entière, repentance dès que il y a quelque chose qui s'est dérangé dans notre attitude, dès que peut-être une pointe d'orgueil est réapparue par-ci, par-là, d'une forme, sous une forme ou sous une autre, par la parole, par l'acte ou autrement. Alors là, confiance, humiliation, repentance et amour du prochain. Avec cela, l'Éternel nous sera favorable. Mais il faut ces quatre points, ces quatre choses. L'Éternel les veut, toutes les quatre, tous les quatre. Et puis, nous assistons au rétablissement de Job. Le rétablissement de Job nous montre son rétablissement dans sa prospérité ancienne. Alors d'aucuns ont dit, eh bien, c'est curieux, Job retrouve sa prospérité matérielle, familiale, sociale, enfin, toute sa prospérité, même au double. N'oublions pas que nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament, mais que, à ce moment-là où Christ n'a pas encore paru, où le royaume de Dieu n'est pas encore annoncé, et on entrevoit certes l'éternité, mais on n'est pas directement appelé à entrer dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, les promesses de Dieu, qui sont bien des promesses en vue de l'éternité, en vue du salut éternel, car bah, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'arrêter au temps de la vie humaine. C'est bien des promesses pour l'éternité, mais ces promesses, toutes les promesses comme celles faites à Abraham, et qui vont si loin de lui, puisqu'elles sont encore en voie d'accomplissement, ces promesses maintenant, dans le temps de l'Église, la postérité d'Abraham, eh bien, ces promesses ont toujours été allié avec un héritage terrestre. L'héritage éternel, en somme, est comme figuré dans un héritage temporel, un héritage actuel. Dieu l'a voulu ainsi. Disons d'ailleurs que dans le temps de l'Église, n'est-ce pas, il n'en est pas de même. Mais, cependant, Dieu n'entend pas priver ses enfants de moyens d'existence, même de moyens suffisants, de moyens larges. Il ne veut pas les en faire des prisonniers enfermés dans la tour de Constance, ce qui a pu se produire, n'est-ce pas, mais c'était là une persécution. Il n'entend pas donc les priver de moyens d'existence. Et il veut leur donner même une certaine prospérité. On a vu les Huguenots quittant la France, devenant très prospères au-delà des frontières, par exemple. N'est-ce pas ? Voilà un exemple. Seulement, ce n'est pas une chose à rechercher maintenant. Ce n'est pas une chose à rechercher. Il faut rechercher, bien entendu, la gloire éternelle, c'est vers quoi doivent se tendre notre foi et notre amour. Il y a une chose bien curieuse dans ce récit du rétablissement de Job, c'est que les anciens amis de Job, les frères, les sœurs, la famille, par conséquent, les anciens amis, vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils se mettent à sa table, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui fit un cadeau, un késita, un certain poids d'argent et un anneau d'or. Il est bien temps de le consoler, hein. Quand maintenant Job est rétabli par Dieu, c'est pas par leur fête, c'est par Dieu. C'est un bien triste entourage que celui-là, d'amis hypocrites, hein, et qui l'ont abandonné. Et ils l'ont abandonné, c'est noté dans le texte, dans le livre, au chapitre 12 par exemple et au verset 4. « Je suis pour mes amis un objet de raillerie, sont allés jusqu'à la raillerie, se moquer de lui. » Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Dans tous ces déboires, eh bien, il n'était plus rien, il ne pouvait plus être avoir de considération, alors ses amis se sont moqués de lui. Et au chapitre 19 et au verset 13, « Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. » Et maintenant, les voilà tous revenus. N'en manque pas, hein, avec un petit cadeau à la main. C'est bien ça l'humanité, n'est-ce pas ? Elle est belle, l'humanité, elle est jolie. Et elle est toujours ainsi. Elle n'a pas changé, croyez bien. C'est un triste entourage. Eh bien, Job les accepte. Job ne prend pas prétexte de leur hypocrisie. Il n'est même pas, il ne se montre même pas irrité de leur hypocrisie. Puisque c'est maintenant qu'il est guéri et qu'il le plaigne et le console. Moi, il me semble que je les aurais fait taire d'un seul coup, n'est-ce pas ? Mais je n'aurais pas eu raison. Je n'aurais pas eu raison. Ils sont loin, ses amis et ses parents, d'être désintéressés. Job était l'homme le plus riche et il le redevient. Et voici que d'autres biens lui arrivent très vite par la bénédiction de l'Éternel. Mais Job va là montrer qu'il sait se comporter en témoin de l'Éternel. Et il va employer cet amour qu'il ne connaissait pas. Il connaissait la charité, mais il ne connaissait pas l'amour divin. Et il va employer cet amour à faire rayonner précisément l'amour de Dieu. Ce qu'il n'avait pas su faire auparavant, il va donc aimer ses faux amis, et ce sont ces faux amis, précisément les ennemis dont Jésus nous a parlé en nous disant « Aimez vos ennemis ». Ce ne sont pas toujours des ennemis qui nous attendent au coin d'un bois avec une mitraillette, mais ce sont de faux amis, de mauvais amis, des amis hypocrites. C'est ça, les ennemis dont a parlé le Seigneur Jésus. Alors, lui, n'est-ce pas, voyez, avant l'heure de l'évangile même, il va aimer ses faux amis. Et l'on peut penser que dans la longue vie qui lui est encore accordée, il aura été autour de lui un témoin actif et il aura travaillé à changer le cœur des hommes. Voilà une très belle leçon qui est, disons, implicite, mais enfin vers laquelle le texte nous oriente. Job retrouve des troupeaux en quantité double, puis il lui vient 7 fils et 3 filles, dont les noms nous sont donnés. Les précédents, nous n'avions pas les noms. Cette fois-ci, il y a les noms que Job donne à ses fils, à ses filles. Alors, à ses 3 filles, la première s'appelle Gemina, ce qui veut signifier, pense-t-on, colombe. La seconde est nommée Ketsia, qui, on le pense, est un nom tiré du cassia, écorce odoriférante, c'est le nom en tout cas d'un parfum. Il lui donne le nom d'un parfum. Et puis l'autre, Keren Apuk, cela veut dire littéralement corne ou fiole contenant une matière parfumée, contenant par exemple un cosmétique qui était toujours une matière parfumée, ou un fard, ou un parfum, pas une fiole de parfum. Et cela peut très bien nous rappeler le vase d'albâtre de Marie de Béthanie, et le parfum de nard qui s'en dégagea et qui fut si agréable au Seigneur. Cela aussi nous parle du Cantique des Cantiques, où nous voyons là aussi un parfum de nard dans l'entourage du roi. Si Job accorde à ses filles, ce qui était contre l'usage de ce moment-là, une part d'héritage avec leurs frères, c'est que celles-ci grandirent et vécurent tout à l'honneur de l'Éternel. Il est certain que Job, qui avait déjà cette intégrité passée, hein, cette crainte de Dieu, qui y a ajouté toute la confiance en Dieu, qui maintenant connaît l'amour de Dieu, connaît Dieu, il est évident, n'est-ce pas, que Job a été un magnifique témoin de l'Éternel. Et alors, il a éduqué, évidemment, ses enfants différemment de ce qu'il avait fait au début, avant son épreuve. Ces enfants qui ont été frappés, hein, là, après coup, quand ils étaient réunis pour dîner, festoyer ensemble, alors ils faisaient des sacrifices pour que l'Éternel ne leur pardonne leurs égarements, leurs péchés possibles. Mais cette fois-ci, n'est-ce pas, il saura amener ses enfants à la connaissance de l'amour de l'Éternel, à la connaissance de l'Éternel. Et il faut croire qu'il y a là une réelle réussite. Il faut savoir, n'est-ce pas, comprendre la Bible qui est très concise. Elle ne nous laisse pas, quand elle nous parle même en utilisant des faits existentiels ou des faits matériels. Mais l'Église, la Bible veut nous dire quelque chose de plus, n'est-ce pas ? Par exemple, ici, il y a une certaine beauté qui leur est attribuée. Elles étaient les plus belles. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Eh bien, cette beauté correspond à une beauté intérieure vue de l'Éternel. Cela n'est pas douteux, comme nous l'avons par exemple pour Moïse, qui était beau aux yeux de l'Éternel. C'est certain que le texte nous convie à relever cela, que ça nous donnerait de savoir qu'il avait des belles filles. C'étaient des belles femmes, elles sont mortes depuis longtemps, n'est-ce pas ? Et la beauté matérielle, bah, ça dure un temps, puis ça s'évanouit, ça s'en va, n'est-ce pas ? Tandis que là, n'est-ce pas, nous comprenons qu'elles étaient belles, oui, physiquement, mais belles aux yeux de l'Éternel, et c'était pour manifester cela. Un lien se forma et subsista entre tous ces enfants de Job par la communauté que Job crée par le moyen de son héritage. On s'est dit, n'est-ce pas, que l'héritage des biens matériels supposait, contenait aussi, allait avec l'héritage des biens supérieurs, des biens spirituels, comme nous le voyons dans, chez les patriarches. Alors là, un lien se forma, subsista entre les enfants de Job, unis parce que leur père leur avait légué, à savoir essentiellement la crainte de l'Éternel d'abord, en premier, et ensuite l'amour de l'Éternel auquel toute marche en avant, toute approche de l'Éternel doit aboutir, l'amour de l'Éternel. Eh bien, nous allons maintenant terminer par quelques réflexions sur le livre de Job. Ce qu'il convenait de retirer du livre de Job, nous en avons déjà dit certaines choses, pas mal de choses, enfin l'essentiel. Il y a naturellement beaucoup à obtenir d'un livre. Il faut que chacun le médite avec un esprit de recherche, d'humilité, d'ouverture. Hein, et on peut toujours en tirer d'autres richesses que celles que je me suis efforcé de mettre en lumière. Mais nous avons, on peut dire tout de suite, un résumé du livre de Job dans le prophète Ésaïe. C'est peut-être pas l'intention du prophète, mais cela correspond très bien. Et lisons par exemple Ésaïe 45. Il s'agit d'un autre personnage que Job, il s'agit de Cyrus, qui, je ne sais pas moi, un siècle à l'avance, et plus d'un siècle même, est nommé par Dieu, avant qu'il ne naisse, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, avant que sa mère même ne soit peut-être là, n'est-ce pas Cyrus est déjà vu d'avant. C'est quelque chose d'extraordinaire dans la parole. Mais cela nous fournit une sorte de lumière qui convient très bien au livre de Job. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voilà déjà une chose. L'Éternel est soucieux et que cet homme, et bien sûr, il n'y a pas qu'un Cyrus, dans l'histoire, et il y a beaucoup d'hommes pour qui l'Éternel est également soucieux, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Eh bien, beaucoup de personnes pourront dire, mais je le sais ça. Oui, tu le sais. Tu le sais quoi? Avec ta tête, avec ton intelligence. Tu ne le sais pas avec ton cœur. Tu le savais avec ton cœur, ça changerait. Ça fait partie de la connaissance de l'Éternel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors déjà, que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses, afin que tu me connaisses. Et Job ne connaissait pas l'Éternel. Il fallait qu'il vienne à ça. Et en somme, on pourrait dire ceci, Dieu considérant Job, cet exemple unique d'intégrité sur la terre, de crainte de l'Éternel. Alors, Dieu pouvait dire, « Oh, je ne peux pas laisser un homme comme ça, et qui ne me connaît pas. C'est pas possible, un tel homme, il faut qu'il me connaisse. Mais comment arriver à ce qu'il me connaisse ? Et la connaissance nécessite l'amour. Il s'agit d'une connaissance par l'amour. Alors, je ne peux pas laisser cet homme. Et Dieu savait, je vous dis, je l'ai dit d'avance, ce qu'il allait faire, ce que Satan allait dire aussi, et voilà justement l'heure venue où Satan fait sa proposition. Dieu la prend, la saisit, bien. Eh bien, mon serviteur Job va être éprouvé. Ce sera dur, mais le résultat sera magnifique. Et nous savons par Ézéchiel, n'est-ce pas, notamment, que nous pouvons nous attendre, et parce que j'espère que nous irons aussi, nous, n'est-ce pas, dans le festin des noces de l'agneau, ben, nous pouvons nous attendre à trouver Abraham, Isaac, Jacob, Daniel aussi, qui est nommé, n'est-ce pas, et puis cet ami Job, nous le verrons là-haut, cet ami Job. Ben, le Saint-Esprit nous le désignera. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses, c'est-à-dire je t'ai entouré là. Je t'ai préparé. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Nous voyons ici, n'est-ce pas, que l'Éternel crée la lumière. Il crée les ténèbres, il donne la prospérité quand il le faut, il crée aussi l'adversité comme il l'a fait pour Job, et en vue de quoi ? En vue de la délivrance pour que le salut fructifie de la terre, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Et là, il y a encore, dans ce texte que nous avons ici, un rapprochement avec la création. Les cieux d'en haut, nous comprenons les cieux, les nuées, toute la création de Dieu. Nous comprenons comme tout est lié. Et pourquoi dans le livre de Job il y a référence, longue référence même, à toute la création inanimée, la création animée aussi, animale sur la terre. Pourquoi ? Mais parce que tout cela est lié dans les œuvres de Dieu. Il n'y a pas des compartiments, c'est un ensemble. Si bien que quand la Genèse nous parle de la création, elle commence à nous instruire en vue de notre salut, en vue de notre salut. Et ceux qui discutent, ceux qui rejettent, ne sont bien pires que Job en ses plus mauvais moments, ou que les amis de Job. Hein? Dieu commence à nous instruire quand il nous dit qu'il crée la terre. Il faut comprendre ces choses, il faut élargir, n'est-ce pas, son esprit. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Pourquoi faire ? Pour que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Il y a un fruit que Dieu veut de la terre, qu'il a créé, de tout ce qu'il y a placé comme être vivant. L'homme aussi, il cherche un fruit. Le fruit de la terre, c'est Christ et toute sa postérité de racheté. C'est ça le fruit de la terre, afin qu'il en sorte à la fois la délivrance. Malheur à qui conteste avec son créateur, c'est ce qu'avait fait Job. Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu, et ton œuvre, il n'a point de main. Là, Dieu a façonné Job, il l'a façonné. Pourquoi lui seulement ? Parce que par lui, il y avait d'abord une grande démonstration à faire, il y avait comme un test universel à faire apparaître, et ensuite Job a été utile dans son temps, ce que la Bible ne nous donne pas de connaître, mais il a été utile certainement. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré ? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté ? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre. Vous voyez toujours, n'est-ce pas, référence à la création. Et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Nous retrouvons, n'est-ce pas, la longue argumentation de Job par Élihu et par l'Éternel. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'ai aplani, et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Cyrus a été en même temps un type aussi du libérateur, le Messie qui devait venir. Mais enfin, il a opéré une libération. Hein. C'est lui qui a libéré les captifs de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Bon, je m'arrête là. Vous voyez qu'il y a là, n'est-ce pas, un rapprochement très utile à faire. Ce que nous pouvons dire encore, c'est que dans l'Écriture, beaucoup de textes, Nouveau Testament comme Ancien Testament, nous parlent de l'épreuve. L'épreuve. Lisons par exemple, puisque nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre nom. Ayons bien le savoir aujourd'hui, ça, je ne donnerai pas ma gloire à un autre nom. Mais nous voyons ici, n'est-ce pas, que l'épreuve à laquelle Dieu soumet même son peuple tout entier, quand il s'agit par exemple de l'Égypte, et soumet ses auxiliaires, et il soumet le juste, comme le dit Jérémie. C'est le juste qui est soumis à l'épreuve. Eh bien, cette épreuve, elle n'est pas faite pour retirer de l'argent, retirer un avantage substantiel pour Dieu. Nous l'avons dit dans Job, ça s'est exprimé. Si tu es juste sur la terre ou si tu n'es pas juste, est-ce que ça affecte Dieu, ça? Est-ce que ta justice fait du bien à Dieu ou ton injustice lui fait du mal? Pas du tout. C'est aux hommes que ça fait ou du bien ou du mal, n'est-ce pas? Eh bien, donc, ce n'est pas pour retirer avantage. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Pour quoi faire? Pour l'amour de moi. Et c'est répété. Pour l'amour de moi, pour l'amour de moi. Je vous le disais dans le livre de Job, il faut qu'un homme, véritablement, qui a réussi par des moyens humains et avec simplement quelque chose tout de même de spirituel, c'était la crainte de Dieu, hein, eh bien, un homme qui a fait une si belle réussite sur la terre, ah, il faut le passer au creuset. Il lui faut l'adversité. Car sans quoi, évidemment, il fera ce que Satan disait, il sera toujours intéressé, il ne servira pas Dieu, il ne te sert pas d'une manière désintéressée, disait Satan, hein. Il n'a pas l'amour de l'Éternel, c'est pas une chose naturelle, c'est pas une chose qui puisse venir dans l'homme de la chute, car tout homme, si magnifique soit-il dans sa conduite, est un homme de la chute. Alors, il lui faut le creuser de l'adversité, et Dieu l'a éprouvé de l'adversité pour l'amour de moi, c'est-à-dire pour que tu apprennes à m'aimer, pour que tu m'aimes moi. Et je le dis, chers amis, attention à nous, chrétiens, nous avons besoin de savoir cela, en tête de tout, c'est le premier commandement, l'amour de ton Dieu, qui est l'amour de Jésus-Christ. Ben, nous trouvons Dieu en Jésus-Christ. Quand je dis l'amour de Dieu, je ne mets pas Jésus-Christ à part, puisque quand on aime Jésus-Christ, on aime le Père, lui-même nous l'a dit, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est Dieu, est un, c'est un, n'est-ce pas? Quand nous parlons de Dieu maintenant, nous n'oublions pas Jésus-Christ, bien sûr, et ces personnes, la personne du Père et du Fils, n'est-ce pas, sont un. Le Père et moi, nous sommes un. Mais, bien entendu, notre amour est plus facile et commence par s'exercer sur le Fils, vers le Fils, et de là, il atteint le Père. Hein. Bon, eh bien, c'est pour l'amour de Dieu, pour l'amour de moi que je veux agir, afin que nous aimions. Et nous, chrétiens, chers amis, c'est la grande leçon Nous devons aimer l'Éternel d'une manière désintéressée. Et quand nous gémissons, quand nous disons le Seigneur, il m'écoute pas, il m'exauce pas, il m'a pas entendu, non, je suis toujours dans ma souffrance, dans ma misère, etc. Eh bien, nous disons nous aussi des paroles sans intelligence et sans sagesse, mais nous nous montrons intéressés. Il faudrait, en somme, avec l'Éternel, que nous ayons, n'est-ce pas, simplement une relation d'échange. Et ça, relation, le mot a donné religio, en latin, religion, n'est-ce pas, cette relation d'échange, ça, c'est les religions. Mais la véritable union avec le véritable christianisme, la véritable union avec Dieu par Jésus-Christ, c'est un lien d'amour, désintéressé. Il ne faut pas que nous soyons, nous, toujours des gens intéressés. Nous rendons grâce à Dieu s'il nous bénit, s'il nous fait du bien. Mais le jour où nous sommes un peu meurtris, broyés, éprouvés, par l'adversité, alors là, n'est-ce pas, ça ne va plus. Ça ne va plus. Nous cherchons sur la terre, nous sommes à la recherche de quelque chose, quelquefois même d'un serviteur de Dieu, oui, il y a un évangéliste là-bas. Nous allons chercher au niveau de terre. Nous n'aimons pas l'Éternel. Notre cœur n'est pas à lui, n'est pas attaché à lui, chers amis. Ça nous fait défaut. Si la Pentecôte est le plein évangile, elle est le plein évangile avant tout dans les parties fortes de cet évangile, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit à ce scribe qui est venu? Eh bien, il lui a dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et alors, comme le scribe a reçu cette parole, il l'a même répétée, tu as bien dit, maître. Et alors, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, eh bien, toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui te manque encore? Ben, il te manque la connaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme parole de Dieu faite chair. Quand tu vas avoir dans ton cœur cette connaissance, tu es dans le royaume de Dieu. Tu y es. Le royaume de Dieu est en toi, est au milieu de toi. Voilà, chers amis, n'est-ce pas? Ce qui est important, et si j'y insiste, c'est que je sais, j'ai ce sentiment que dans l'Église, nous manquons de cet amour pour l'Éternel, de cet amour désintéressé, entièrement désintéressé. C'est la grande leçon de Job, ça. Et vous voyez qu'elle est ici, n'est-ce pas, dans Ésaïe. Et pour vous montrer, par exemple, cet amour désintéressé, je pourrais disposer de bien des textes, je n'en ai pas le temps, mais nous pourrions, par exemple, regarder Hébreux 11, dans le Nouveau Testament. Il y a, n'est-ce pas, des témoins, comme ils sont appelés, des témoins de Dieu, et qui ont fait des prodiges, et par la foi, qui ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, guéri, ils ont guéri de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Et des femmes même ont recouvré leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ah, c'est plutôt du Job au cours de son épreuve, ça. Ils furent lapidés, ils furent sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, tout cela. Aussi bien ceux qui ont fait des choses éclatantes, et qui ont été guéris, et qui ont retrouvé leurs enfants par résurrection, eh bien tout cela, que ceux qui ont été véritablement criblés dans l'épreuve, eh bien tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Mais ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà des gens, vous voyez, sur la terre, ça s'est trouvé. Et ça, c'est aux grandes dames de Satan. Ils te servent d'une manière, tu verras que ce n'est pas d'une manière désintéressée. Eh bien si, ces gens-là ont souffert, plus que Job encore peut-être. Et ils ont aimé Dieu d'une manière désintéressée. Et nous dans l'Église, mes amis, allons-nous aimer Dieu d'une manière désintéressée? Ne pas établir, avec, ne pas nous établir dans une relation avec Dieu sur le principe de l'échange, donnant, donnant. Il faut absolument aimer d'une manière désintéressée. Eh bien, les paroles de l'Éternel, après la longue épreuve subie par Job, ont produit chez cet homme un fruit précieux d'humiliation et une confiance absolue en Dieu et en sa justice. Il a eu une rencontre avec Dieu, une rencontre réelle avec Dieu. Et rien, à partir de ce moment, ne s'oppose plus en cet homme qui a appris à être séparé de sa prospérité, qui a appris à être touché par le malheur. Eh bien, en cet homme, il n'y a plus rien qui s'oppose à ce qu'il soit un adorateur, en esprit et en vérité, un adorateur désintéressé, adorateur que Dieu cherche. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui l'aiment en esprit, en vérité, dans le cadre de la vérité, par le mouvement de l'esprit. Il veut des adorateurs ainsi, indépendamment des circonstances par lesquelles il passe sur la terre, indépendamment des événements de leur existence, des adorateurs en esprit en vérité. Le Nouveau Testament, Jésus nous l'a affirmé encore, des adorateurs, ce sont ceux qui aiment de l'amour de Dieu, de l'amour de l'esprit. Voilà ce qu'il veut, chers amis, et tant que nous ne sommes pas dans l'Église de tels adorateurs en esprit en vérité, que sommes-nous? Nous risquons simplement d'être dans des habitudes, d'être des religieux, dépouillés peut-être, oui bien sûr, de tout ce qui est venu souiller le christianisme. Nous avons repris peut-être la vérité dans sa lettre, la vérité dans une part de son esprit, mais nous ne sommes pas venus, nous, en esprit et en vérité, devant le Seigneur pour être ses adorateurs, quoi qu'il nous arrive. Des adorateurs en esprit et en vérité, voilà ce que Dieu cherche, voilà ce qu'il est venu nous demander, et voilà ce qu'il est venu faire au milieu des hommes de la terre par Jésus-Christ, son Fils. Que son nom soit béni. Amen.
On aurait la vie entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit, maintenant mon œil te voit, Jésus mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom, Seigneur, car maintenant mon œil te voit, maintenant mon œil te voit, maintenant mon œil te voit, Jésus mon roi.